savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
Nouvelle de dernière heure là, qui est tombée en plein milieu d'après-midi. Tragique nouvelle également. Un travailleur dans le port de Montréal qui a connu véritablement une fin atroce et tragique, Mario. Enfin, à 13h30 cet après-midi, on était là tout près du terminal Vio, donc qui est à l'angle là, des rues Notre-Dame-Est et Vio, qui est le dernier en liste là, des nouvelles installations du port de Montréal. Et là, on a un camionneur, un homme là, qui serait décédé, écrasé, ni plus ni moins, là, par un poids lourd. On dit que c'est sa tête qui aurait été écrasée, une mort immédiate.
Ouais, les textes, c'est assez brutal. On dit aucune manœuvre de réanimation. La tête a été écrasée par une roue, mort évidente. Tu dis, OK, c'est pas un bel accident, l'avait avoir vécu. On parle de soutien psychologique tout de suite aux gens qui ont assisté.
Oui, absolument. Là, du côté là, des autorités du port, on va donner le soutien psychologique suivi pour les gens qui ont assisté à ça. Ce qu'on se comprend, là, des accidents de travail ou des accidents tout court, quand t'as pas de manœuvre de réanimation, c'est parce que...
Parce que c'est laid, là, ouais, c'est ça.
Ouais, ça vaut vraiment pas la peine.
Bon, c'est sûr, dans ces cas-là, ils nous disent rien parce que la CNESST débarque, gèle toute la scène, demande à tout le monde de rien dire parce qu'ils veulent les interroger puis ils veulent pas que la preuve soit contaminée. Fait que ça finit toujours qu'on sait les circonstances de départ, mais après ça, plus rien.
Voilà, donc...
Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Même l'âge de la personne qui a été, malheureusement, là, happée dans cette histoire-là, et pas précisé, donc on va falloir attendre les conclusions de l'enquête de la CNESST, mais vraiment, là, nouvelle frappante, tragique, là, aujourd'hui dans le port de Montréal. On poursuit maintenant avec des nouvelles du transport en commun parce que c'est la saga de la semaine. Quand même, Mario, ce bras de fer qui a lieu entre les municipalités, entre la ministre Guilbeault aussi...
Je l'ai reçu ce matin à LCN longuement.
Elle et sa sacoche, juste elle?
Non, juste elle. Juste elle n'a pas fouillé dans sa sacoche pendant l'entrevue, mais très de plaisanterie. Elle était quand même déterminée, claire, avec des bouts solides. Là. Quand elle dit « je ne ramasserai pas le déficit des municipalités, en fait, des sociétés de transport municipales », je la comprends très bien. D'autres bouts, bon, là, comment on va s'y prendre pour mettre en place des projets de transport en commun qui traînent, je dirais, là, c'est un petit peu plus... Ça se tient, ses réponses, mais c'est un peu plus inquiétant, dans le sens que, tu vois, va-t-on en avoir des projets de transport en commun qui vont se réaliser un jour? Est-ce qu'on en veut vraiment? Mais, mon point, je l'écoutais, elle me donnait une entrevue vraiment solide, là, inébranlable. Tu dis, OK, c'est parce que s'il y avait eu ce ton-là, cette semaine en commission parlementaire, il n'y a pas de controverse, là. Moi, je continue de penser que son ton nonchalant, désintéressé, là, son ton, ça ne me tente pas tant que ça d'être ici, est à la base de tout le problème. Là, t'sais, parce que sinon, elle n'a rien dit de nouveau. Bon, elle a dit, là, le transport en commun, c'est pas notre responsabilité, mais dans le fond, quand elle s'explique, ben, elle l'explique bien, là, que c'est pas, elle veut pas ramasser le déficit des sociétés de transport. Mais je pense que le ton et l'attitude ont été au cœur de son problème. Mais donc, là, l'opposition, votre suggestion.
Oui, c'est les suggestions. Puis quand on parle de l'opposition, c'est Québec solidaire. Puis le Parti québécois, d'ailleurs, Québec solidaire, qui sont venus faire leur conférence de presse juste en face de nos studios, Mario.
Ben oui, j'ai vu la photo dans le journal. J'ai dit, ben là, ça, c'est devant Cube, là.
Ben voilà, justement. Alors, on avait nos visages ben, curieux
on est
tout
au cœur du réseau de métro de Montréal. Là, la station centrale du réseau, c'est Berry-UQAM, ben l'autre bord de la rue. Là.
Tous les chemins mène à Berry-UQAM, Mario, ça c'est bien vrai. Et là, ben, la conférence portait justement sur cette nouvelle solution qu'avance Gabriel Nadeau-Dubois, le porte-parole de Québec solidaire, pour pallier à ce manque à gagner des transports en commun, aller piger dans le fond vert. Parce qu'on parle d'à peu près une somme de 1,7 milliard de dollars, là, qui est dans le fonds d'électrification et de changement climatique. C'est le nouveau nom du fonds vert. Et là, ben, on veut aller piocher cet argent-là pour être capable d'éponger au moins là, le déficit de 2025 qui s'en vient. En attendant, dit Gabriel Nadeau-Dubois, trouver une solution à plus long terme là, pour le financement des transports en commun. Là. Ce serait comme un plaster, si on veut, là, en attendant pour être capable de gérer tout ça.
C'est une demi-bonne idée. C'est pas fou, là. Le fonds vert sert à ça. Le transport en commun, c'est certainement une mesure verte. C'est juste que... En fait, je dirais, quand tu te mets à dire qu'il faudrait aller piger dans le fonds vert pour le transport en commun, ça fait prendre conscience d'à quel point ça coûte cher, le transport en commun. Parce que quand on dit 1,5 milliard dans le fonds vert, on dit, hey, c'est énorme. Ça a pas de... Il y a même des gens qui ont reproché au gouvernement, ça n'a pas de bon sens que tant d'argent s'est accumulé. Mais... Je veux dire, si tu disais on utilise le fonds vert pour le transport en commun, tu le viderais. Tu pourrais le vider en un an ou deux, là.
Ben, facilement. 1,7 milliard, Mario, pour des projets de transport en commun, ça va vite.
C'est du change, c'est ça. C'est ça, c'est parce que À court terme, tu pourrais éteindre le feu du déficit de cette année, mais là, t'es pas plus avant. Un, t'aurais vidé, t'aurais comme sérieusement, amoché le fond vert, puis t'aurais pas vraiment réglé de problème à moyen et à long terme. Là.
Non, c'est ça. Puis c'est vraiment avoué.
Mais ils l'ont avoué. Là, c'est ouais. Une solution de court terme. C'est un plaster pour cette année, pour l'année prochaine, mais. Oui et non. Là,
de toute manière,
va falloir trouver des vraies solutions à terme pour financer le transport en commun.
Oui, puis ça n'a pas l'air de plaire de toute manière, pour l'instant, à Geneviève Guilbeault, justement, là, qui rétorquait cette idée-là aujourd'hui, qu'elle voulait attendre.
C'était pas l'esprit du fonds vert. L'esprit du fonds vert, c'était vraiment de l'innovation, là, de financer des nouvelles initiatives, des nouvelles technologies, des nouveaux procédés, des nouvelles façons de faire qui réduisent là, directement les gaz à effet de serre. Alors que oui, le transport en commun aide à réduire les véhicules sur la route, mais je veux dire, si tu finances le même transport en commun qui se faisait l'année passée, t'as pas de réduction des GES, là.
Non.
Aucune. T'as juste...
Il y a pas de gain net, là,
non, il y a pas de gain net. Tu refais... Bon, c'est sûr que si tu dis l'alternative, ça serait d'enlever des services de transport en commun puis de forcer des gens à reprendre leur véhicule, peut-être, là.
Oui, absolument. Et là, ben, on a aussi les Audi qui se tiennent là, du côté des organismes publics de transport en commun. Là, et on veut avoir, justement, là, attendre la fin complètement de ces Audi-là pour être capable de voir comment ça se fait là, dans les organismes. Madame Guilbeault, on se comprend, elle ne veut pas donner un chèque en blanc tant qu'elle ne comprend pas toute la mécanique interne des organismes de transport.
Les Audi, là, si les Audi sont efficaces, les Audi devraient nous amener des solutions en matière de transport en commun moins coûteux. Là. Donc, est-ce que les Audi pourraient avoir le courage de dire, ben là, les salaires sont en haut des moyennes, il y a trop de bureaucratie, ou est-ce que... J'ai hâte de voir jusqu'où les Audi... Parce que c'est ça, là, c'est vraiment une évaluation de la gestion. Alors, est-ce qu'ils vont être... Parce que ça, une évaluation de la gestion, tu peux être doux, tu peux être plus corsé, là, à dire, ouais. Est-ce qu'on va nommer les vraies choses, qu'est-ce qui coûte trop cher? J'ai hâte de les voir.
Actualité.
Parlant de coûter trop cher, Mario, on n'avait pas tout eu la facture sur le toit du stade finalement. C'est nos collègues du bureau d'enquête de Québecor qui se sont penchés sur les 490 pages là, du contrat qui a été alloué pour être capable de faire la réfection du fameux l'anneau technique du stade, là, ce qu'on veut installer pour remplacer l'actuelle toile qui fait la toiture de notre stade montréalais. Mais là, c'est parce que 870 millions de dollars, la facture pour tout ça, ben c'est parce que c'est juste l'anneau finalement. Là, vous allez me dire, juste l'anneau, et il y a quoi d'autre? Ben, beaucoup d'autres choses, finalement. Beaucoup d'autres choses qui doivent être installées
surtout
avec un anneau comme ça.
Électricité, ventilation, là, qui sont les deux gros postes qui sont pas inclus.
Oui, parce que là, ça prend un équipement pour être capable de ventiler le stade comme il faut. S'il y a des dégagements de fumée, par exemple, il faut être capable d'évacuer tout ça. Là. C'est dans le code du bâtiment. Tu peux pas avoir un stade sans ça. Après ça, l'électricité qui passe là-dedans, mais l'éclairage aussi. C'est parce qu'il faut l'éclairer, ce stade-là. Il faut que les gens à l'intérieur mais soient capables de voir quelque chose. Puis là, ensuite, les haut-parleurs, parce qu'on veut recevoir des spectacles grandioses. Un jour, Taylor Swift a été évoqué. Ben, c'est parce que ça va prendre de l'éclairage. Puis là, ben, c'est ce qu'on réalise en ce moment. Ça va coûter pas mal plus cher que tout ça. Là. En date du 12 mars dernier, par exemple, pour la ventilation, c'est quand même 91,6 millions de dollars que ça risque de coûter. L'électricité, à peu près la même chose. Là. Et là, ben, les équipements scénographiques aussi, là, tout ce qui est équipement de levage, parce que pour la scène, tu peux pas le monter à main, ça prend des espèces de grues ou d'équipements pour les monter. C'est un 20 millions à peu près chacun de ce côté-là. Et là, il y a toutes sortes d'autres petits travaux aussi annexes qu'on veut faire du côté de la gestion du parc olympique. On veut, par exemple, reconfigurer des gradins. C'est pas clair dans le texte exactement.
Mais ça, par contre, ce matin, moi, j'ai parlé avec Michel Labrec. Les gradins, il faut vraiment mettre ça à part. C'est un autre projet. C'est pas urgent. C'est dans les cartons. C'est quelque chose un jour qu'il faudra faire. Mais...
Parce qu'ils sont vieillots quand même.
Oui, c'est ça. Mais on peut pas inclure ça là-dedans. Là. C'est pas dans le projet actuel. C'est pas urgent. C'est pas prioritaire. Le reste, parce que ça fait partie de l'anneau. Maintenant, l'explication de... Non, ils disent que c'était pas caché. Là. C'était dans les documents puis ça n'a jamais été dit. Puis ils disent... Ouais, mais ça, c'est parce que c'est comme de l'entretien régulier. Là. C'est parce qu'ils disent à chaque année, Le gouvernement amène 40 à 50 millions tous les ans dans un entretien régulier du stade. Fait qu'il dit, là, ça, l'électricité, puis ça, ça fait comme... Sa prétention, c'est que ça fait pas partie des travaux spéciaux là, de faire un toit, mais que ça va comme pour ces années-là, ça va être ça qui va passer comme étant de l'entretien régulier, là, l'électricité de l'anneau. Bon.
On s'entend que concrètement, ça change rien.
Je comprends ce qu'il dit, mais je pense que pour le commun des mortels, on aurait le goût de dire, ben là, dis-nous-le au complet, est-ce que ça va coûter l'anneau? Il y en a d'autres qui disent, ben là, politiquement, c'était une façon de pas trop s'approcher du chiffre épeurant du fameux 1 milliard, le seuil psychologique du 1 milliard, parce qu'on était à 870 millions. Donc là, si on additionne ces éléments-là, on est rendu à 900, quasiment à presque 1 milliard, donc qu'on aurait arrondi à 1 milliard.
Mais bon, Mario, j'ai une question parce que c'est une réflexion qui me vient quand je vois des projets comme celui-là, quand on parle du transport en commun, quand on parle du prix du pont de l'île d'Orléans. Est-ce que c'est réaliste maintenant d'essayer de concevoir des projets d'infrastructure en bas du milliard? Pour vrai.
Non, mais ça coûte cher. Ça coûte, c'est, les coûts de construction ont augmenté à un point. C'est sûr qu'on se pose des questions. Est-ce que les modes. Parce que. Il s'est passé quelque chose. Puis d'ailleurs, le gouvernement veut réformer ça. On dit, là, d'ici 2-3 ans, on va changer la façon de faire des projets. Parce que c'est quasiment, c'est un peu à cause de l'opinion publique puis des médias. Parce qu'il y a eu des dépassements de coûts à plusieurs reprises. Parce que l'histoire est connue. Et donc là, les gouvernements se sont dit, moi, je veux plus de dépassements de coûts. Je veux plus annoncer un projet qui coûte 400 millions. Finalement, il en coûte 450. Parce que là, le monde, mais ça se ramasse à la une du journal. Puis le monde est en maudit pendant 6 mois.
Oui.
Donc, je vais dire à l'entrepreneur, là, mets-toi toutes les contingences. C'est-à-dire, mets-toi là, toutes les barrières de
les plans de sécurité.
Les plans de sécurité plans pour que toutes les imprévus... Fait que l'entrepreneur, il va te dire, ben OK, ton projet de 400 millions, moi, t'as le chargé à 500 millions. Mais il n'y aura pas de dépassement de coûts. Fait que je reviens à mon projet. Fait que dans le fond, le projet que je décrivais tantôt, à 450, tu dis, OK, il a coûté 400. Il n'a pas coûté 400, mais je veux dire, il a été... budgété annoncé à 400, il a coûté 450, j'ai eu un dépassement de coût de 50 millions, je suis choqué. Mais si l'entrepreneur te le fait à 500...
Il t'annonce 500,
puis il te le livre à 500, tu te dis, oh là, je suis content. Mais dans le fond, il a rien coûté 450 quand même, il s'est ramassé 50 millions de profit parce que il y a la moitié de son buffer, en mauvais québécois, ouais. Là, de sa marge de manœuvre de sécurité qui s'est gardée, la moitié qu'il n'a pas utilisée, il le met dans ses profits. Mais toi, tu te dis, hey, moi, comme contribuable, je suis content, il n'y a pas eu de dépassement de coûts.
Ouais.
Fait que c'est là qu'il faut trouver le juste milieu de dire, ben, garde, on va s'entendre sur un prix, puis s'il y a des dépassements de coûts, on est peut-être mieux comme contribuable ou comme gouvernement de dire, ben, on va l'assumer, là, tu sais, on te donnera pas.
Un espèce de chèque en blanc.
Une marge de profit de sécurité de fou. Parce que l'entreprise, les chiffres sont tellement gros, l'entreprise, dis-moi, si je fais 50 millions de trous, là. Il peut quasiment me mettre en faillite. T'sais, le chiffre est tellement gros, là. Mettons que j'ouvre le toit du stade, il se met à avoir des surprises, l'eau s'est infiltrée, puis tout ça. Moi, je mets ma business en faillite. Donc là, quand tu mets les entreprises avec un gun sur la tempe, un fusil sur la tempe, de dire, hey, pas de dépassement, aucune considération. Mais l'entreprise, là, elle va dire à ses ingénieurs, à ses architectes, à ceux qui font les plans, garde, là, mets-toi, là, des sécurités. Puis 10 % de plus, puis 20 % de plus. Puis quand je vais arriver à la dernière étape, je vais me rajouter un 25 % de plus. Parce que... Fait que, en gros, il va falloir qu'on repense la gestion du risque parce que la peur des dépassements de coûts nous a mis dans une position où on force les entreprises. Puis là, les entreprises, tu peux bien dire, c'est des valeurs, ils nous voient, c'est facile à dire, mais moi, si j'étais un PDG d'entreprise, je dirais, attends un petit peu, là. Je fais un pont, je fais un stade, je fais une affaire gigantesque où il y a 1000, tu sais, des...
Ben, c'est complexe, là. On rénove
notre salle de bain, là, puis en démanchant la laine minérale, là, on se rend compte d'une merde, c'est pourri, ça te coûte 10 000 de plus. Fait qu'imagine un pont, imagine un stade. Donc, il y a un point où ce n'est plus avantageux. Ce n'est plus de dire à l'entrepreneur, et je veux pas de dépassement de coûts, t'es mieux de dire à l'entrepreneur, regarde, fais-moi un prix raisonnable, puis là, ben quand on va démancher l'anneau, s'il y a eu une infiltration d'eau pis on a une mauvaise surprise, on va la constater ensemble, puis il y aura un dépassement de coûts, puis on l'expliquera au peuple, mais moi, comme contribuable, je ne veux plus payer cette sécurité-là. Mais là, c'est parce que tu dis, OK, je comprends, là, pour pas que le Journal de Montréal te fasse une dépassement de coûts, tu vas donner à l'entrepreneur 100 millions de plus de marge de sécurité. On a comme viré débile, là. Tu comprends-tu? Il y a comme un point où... Fait que là, il faut qu'on retrouve le juste milieu. De dire, regarde, un prix raisonnable, Les dépassements de coûts, c'est un risque. À la limite, qu'on invente un nouveau mot dans notre vocabulaire, qu'on dise aux contribuables, regarde.
Ça, c'est la marge de manœuvre.
C'est un projet de 400 millions, puis on se met 200 millions en risque. Puis là, ben, on espère pas l'utiliser, mais là, c'est parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on le donne à l'entrepreneur. Présentement, on se dit, ben là, regarde, moi, je veux pas. Je veux que tu me donnes un prix, là, béton, que t'arrives. Fait que l'entrepreneur, il dit, moi, t'as le donné ton prix béton,
mais.
Mais moi, je vais mettre toutes les marges de manœuvre. Puis si jamais le projet va bien puis qu'on n'a pas tous ces malheurs-là, nous arrivent pas, bien, on le passera dans nos profits. Pas mieux, là. Pas non, mieux, là, pour vraiment satisfaire l'opinion publique.
Nouvelle de dernière heure aussi, Mario. Nouvelle montréalaise qui est assez étonnante. Merci. Il y a des dizaines de personnes qui ont été évacuées.
Oui, mais c'est ça. C'est la nouvelle qui tourne depuis quelques minutes. Là. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, qui ont été évacuées du quartier Rosemont, tout près de la rue d'Orléans, à côté du boulevard Saint-Joseph. Parce qu'on dit qu'il y a un colis qui a été découvert juste devant un dépanneur du quartier. Colis qui traînait depuis au moins 3 jours, selon certains témoins. Et là, on ouvre ça. Des bâtons de dynamite,
ben voyons, Mario.
Un collier rempli de bâtons de dynamite. Et là, ben, les policiers sont allés évacuer.
En plein Montréal, en plein quartier Rosemont, résidentiel, habité.
Devant un dépanneur, puis là, il y a le propriétaire du dépanneur qui comprend pas, qui dit « ça n'a pas rapport avec mon commerce, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que ça fait devant chez nous? » Mais il a fallu quand même évacuer tout le monde.
Ouais, et là, c'est pas des popsicles pour son frigidaire de commerce, là.
Mais surtout que c'est une dame qui a découvert ça. Elle a vu le colis qui traînait, ça fait longtemps qu'il traîne, ouvert le collier, bam, bâton de dynamite. On n'imagine pas,
mais ça tue. Est-ce que c'est criminel? Est-ce imaginable que ça peut être oublié de bonne foi par un entrepreneur en travaux qui travaille, je sais pas, sur le REM ou un tunnel ou le métro, la ligne bleue du métro ou je sais pas?
Honnêtement, j'ai.
Personne sait.
Ben, pour l'instant, personne sait. Là, heureusement, les artificiers de la police de Montréal se sont rendus sur place, ont utilisé un robot, ont neutralisé le collier. Donc, tout est beau. Il n'y a rien qui a sauté dans le quartier Rosemont. Mais comme. Moi, j'imagine pas la face, tu sais, du postier de Poste Canada. Qui le sait, là, il est allé livrer un colis il y a 3 jours devant le dépanneur. Puis il voit ça à la télé, puis il fait
Ah! Il s'est promené. Les artificiers de la police, c'est pas le genre de personne nerveuse que tu arrives derrière lui, tu fais boue, puis il fait le saut. Là. C'est plutôt des personnes qui ont un certain calme.
Voilà, eux sont moins
stressés. J'en avais connu
que moi.
Un qui était devenu garde du corps. Puis je l'avais connu quand j'étais chef de l'opposition, puis tout ça, puis il comptait sa vie d'avant, là. C'est fou parce que, un, quand t'es artificier, tu travailles pas si souvent que ça. Là, t'es pas, tu sors pas tous les jours. Fait que leur temps libre, ils les passent sans niaiser à étudier des bombes. Ils vont dire, ouais, on a appris que la Russie a une nouvelle façon de brancher, un nouveau matériau, un nouveau mélange d'explosifs. Ils mettent ci avec ça.
Et ils se gardent au goût du jour.
Là. Ouais. Et avec les corps policiers du monde entier, là, ils vont apprendre, mettons, que les policiers, je sais pas moi, de la Thaïlande ont défait une méchante bombe. Là, ils vont aller étudier comment ils s'y sont pris. Ils ont dû ramper dans un endroit. OK, puis là, ils ont fait ça. Parce que là, il fallait, s'ils débranchaient tel fil, ils allaient tout faire péter. Pis. Fait qu'ils passent beaucoup, beaucoup de temps. Parce que la force, c'est leur compétence. Eux, ils sont ben pas oui. appelés souvent. Mais quand ils sont appelés, c'est comme assez important qu'ils foirent pas, là, tu sais, ouais. Parce qu'ils peuvent tuer du monde, faire sauter des buildings, n'importe quoi. Fait qu'ils passent une grosse partie de leur temps à s'entraîner et à étudier pour que quand ils sont appelés, mais c'est oui, on parle de gens qui ont un bon sang-froid.
Oui, absolument, bon
parce
sang-froid.
Parce qu'eux doivent s'approcher, à cette heure, des fois, ils ont des petits robots, mais tu sais, je veux dire, tes appels, dis-moi, sur cela, on a trouvé une bombe. Ah, bon, on va aller voir ça.
De la dynamite tout dans monde, Rosemont.
C'est tout le monde s'éloigne. On dit, ben là, nous autres, on va aller voir ça.
C'est nous qui s'approchent de l'engin de mort.
C'est ça le métier.
On enchaîne également avec Nouvelle économique. On a eu cette annonce aujourd'hui dans le coin de Bromont de Justin Trudeau qui était sur place avec François-Philippe Champagne. Il y avait également le ministre de l'économie du Québec, Pierre Fitzgibbon, qui était sur place pour une annonce puis tout un investissement quand même qui est mis dans une industrie de pointe, Mario. Là. Vraiment, là, ce dont tout le monde s'arrache.
Il y a un type que je suis là, d'économie américaine à Wall Street. Il appelle les semi-conducteurs. Il dit « it's the new oil ». C'est le nouveau pétrole. En d'autres termes, ouais. Il y a une époque, si tu remontes dans les années 50-60, c'est le pétrole, c'était la matière première là, des industries, des transports qui faisaient marcher l'économie. Mais maintenant, c'est vraiment les semi-conducteurs. Pourquoi? Ben, c'est les microchips là, qu'on met dans
tout
ce qui est électronique. Puis à une époque, ben, on disait les microchips, ils vont dans les ordinateurs.
Oui.
Sauf que maintenant, là,
un ordinateur, c'est tout.
J'ai changé ma laveuse sécheuse cet automne à la maison avec ma blonde. C'est plein de micros. À ce temps, sont branchables, connectables. On peut partir de la laveuse avec notre sel. Il y a un sensor pour est-ce que le linge est sec ou pas. Il y a des détecteurs de tout. Fait que tout ça, toute cette électronique-là, chaque bouton, c'est plein. Une automobile, maintenant, on parle, c'est des centaines de milliers de semi-conducteurs, donc de petites
pour une seule auto, là, c'est pas pour rien que les caméras de recul que vous avez sur votre auto, les capteurs sur les côtés pour détecter que quelque chose approche.
Tous les systèmes de détection de la chaleur de partout dans ton véhicule. Puis là, avec les véhicules électriques, on nous dit, ouais, là, il y en a genre 4 fois plus.
Et c'est pas pour rien là, que pendant un certain moment, après la pandémie particulièrement, c'était absolument là, infernal de commander un véhicule, là, le temps d'attente.
C'était les microchips, c'était les semi-conducteurs qui manquaient.
C'était les semi-conducteurs
qui
manquaient.
Et donc, au Québec, on n'est pas un champion de ça, mais on a un endroit, on a une ville, là, Bromont, où il y a l'usine d'IBM, puis il y a une spécialité technologique, là, quand même une certaine expertise autour de ça.
Oui, c'est ce qu'on appelle le Centre de collaboration micro-innovation C2MI, qui se trouve à Bromont, donc qui est en collaboration avec IBM, justement, le géant de l'industrie technologique. Et là, ben, c'est à cet endroit qu'on va financer un projet de 227 millions de technologies quantiques. Là. Et là, Québec injecte 39 millions de dollars là-dessus, 60 millions de dollars qui sont injectés par Justin Trudeau dans le projet pour à peu près 100 millions de dollars pour fabriquer justement encore plus de micropuces dans ce coin-là. Puis ça suit au tac, Mario, l'annonce du côté de M. Biden qui a investi... Là,
je pense que le montant est un petit peu plus gros.
Ouais, 8,3 milliards du côté américain. Du président Joe Biden, américain bien entendu. Puis déjà, là, il y a le Chip Act qui est cette nouvelle...
Parce que ce que j'ai pas dit dans mon affaire tantôt, c'est que c'est devenu tellement stratégique dans le militaire. Si tu veux avoir le drone le plus fou, là, tu sais, qui est capable de détecter, tirer, viser, mais faut que tu aies les meilleurs... C'est les meilleures micropuces dedans.
Ben oui.
Puis là, on les vend plus à la Chine, on les vend plus à la Russie. Il y a un boycott une certaine qualité, là, les dernières technologies dans la micropuce. On les partage plus. Là. On les vend, les Américains les vendent plus, veulent en produire davantage, puis veulent contrôler le marché parce qu'ils s'en produisent en Chine.
Oui.
Puis un des plus gros producteurs au monde, c'est Taïwan.
Oui, et Taïwan, on se comprend, c'est une île qui est dans une situation géopolitique absolument stressante.
Qui est un pays indépendant que la Chine considère faisant partie de la Chine. Historiquement, mais ils sont toujours sur le bord. T'as toujours peur qu'il y ait une guerre qui débarque pour aller chercher Taïwan.
Oui, puis c'est une crainte là, depuis, entre autres, que la Russie décidé d'envahir l'Ukraine, qu'on tente de faire la même chose, utilisant cette diversion-là du côté de la Chine pour aller reprendre Taïwan, qui est défendu quand même. C'est des intérêts américains qui sont là. Donc, c'est toute une annonce qui est faite. Puis les États-Unis, c'est pas compliqué, là, le Chip Act, c'est 55 milliards de dollars qui est injecté pour ramener justement la production de puces du côté des États-Unis. Quand même rassurant de savoir qu'on va commencer, plutôt qu'on va continuer à en faire là, de plus en plus ici au Québec. Donc, un nouveau centre d'innovation de ce côté-là.
D'ailleurs, il y avait eu quelque chose là-dessus. Quand le président Biden est venu au mois de mars de l'année passée, là, ils avaient parlé de l'axe Albany-Bromont, quelque chose comme ça, là, comme étant un axe qui va pouvoir devenir un lieu important dans la production des micropuces.
En terminant, Mario, c'est une bonne nouvelle du côté du palais de Buckingham. Le roi Charles III qui se porte mieux. Je rappelle quand même qu'il y avait eu des mauvaises nouvelles à son égard. Là, en début février, on avait annoncé qu'à la suite là, d'une opération pour soigner un problème de prostate, on s'était rendu compte qu'il y avait un cancer. Bon, on n'a jamais précisé de quel cancer il s'agissait. Est-ce que c'était relié à prostate ou à autre chose? Jamais ça a été précisé. Mais là, on dit que dès la semaine prochaine, il va commencer à reprendre des activités publiques. Les médecins trouvent que c'est très encourageant la manière dont il se remet, va continuer à suivre des traitements, mais va continuer à pouvoir prendre là, des bains de foule puis vaquer à diverses occupations. Donc, bon repos, bon rétablissement au roi Charles III, Mario.
Donc, s'il reprend des activités, ça veut dire qu'il va pouvoir commencer à surveiller ce qui se passe. Je commençais à trouver que c'était un petit peu... C'était quand même la gestion au Canada.
Oui, exact. Là, il surveillait pas ça depuis un bout. Là.
On dirait qu'on l'a senti que le roi avait plus l'œil là, sur la gestion. M. Trudeau était laissé à lui-même. Là,
ça m'inquiète toujours dans ce temps-là, Marie.
Ouais. On va se fier sur notre bon roi. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.